Chapitre 2. Winston était couché sur quelque chose qui ressemblait à un lit de camp, sauf que c'était plus élevé au-dessus du sol et qu'il était attaché de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger. Une lumière qui semblait plus forte que d'habitude lui tombait sur le visage. O'Brien se tenait à ses côtés et le regardait attentivement. De l'autre côté, un homme en blouse blanche brandissait une seringue hypodermique. Même après avoir ouvert les yeux, Winston ne se familiarisait avec son environnement que progressivement. Il avait l'impression de flotter vers le haut dans cette pièce, dans un monde tout à fait différent, une sorte de monde sous-marin bien en dessous. Depuis combien de temps était-il descendu là? Il ne savait pas. Depuis le moment où ils l'ont arrêté, il n'avait pas vu l'obscurité ni la lumière du jour. En outre, ses souvenirs n'étaient pas continus. Il y avait eu des moments où la conscience, même le type de conscience que l'on a dans le sommeil, s'était arrêtée net et avait recommencé après un intervalle. Mais que les intervalles soient de quelques jours, quelques semaines ou de quelques secondes, il n'y avait aucun moyen de savoir. Avec ce premier coup sur le coude, le cauchemar avait commencé. Plus tard, il devait se rendre compte que tout ce qui se passait alors n'était qu'un interrogatoire préliminaire, un interrogatoire de routine auquel presque tous les prisonniers ont été soumis. Il y avait une longue liste de crimes, espionnage, sabotage, etc., que tout le monde devait avouer. Les aveux étaient une formalité, même si la torture était réelle. Combien de fois avait-il été battu? Combien de temps les coups avaient duré? Il ne s'en souvenait pas. L'attaque venait simultanément de 5 ou 6 hommes en uniforme noir. C'était parfois des poings, parfois des matraques, parfois c'était des tiges d'acier, parfois des bottes. Il lui arrivait de se rouler sur le sol, sans honte, comme un animal, en se tordant d'un côté et de l'autre, dans un effort interminable et sans espoir pour esquiver les coups de pied. Il s'attirait simplement encore plus de coups, dans les côtes, au ventre, sur les épaules, sur les tibias, à l'aine, aux testicules, sur le coccyx. Il y avait des moments où cela durait si longtemps que la chose cruelle, violente, impardonnable lui semblait être non plus que les gardes continuassent à le battre, mais qu'il n'eut pas la force de perdre connaissance. Il y eut des moments où son courage l'abandonnait tellement qu'il se mit à crier pitié avant même que les coups ne commencent, quand la simple vue d'un poing armé prêt à frapper suffisait à lui faire avouer des crimes réels et imaginaires. Il y avait d'autres moments où il commençait avec la résolution de ne rien confesser, où chaque mot devait lui être arraché entre des halètements de douleur. Et il y avait des instants où il essayait faiblement d'un compromis, où il se disait « Je vais me confesser, mais pas encore, je vais tenir, jusqu'à ce que la souffrance devienne insupportable. 3 coups de pied de plus, 2 coups de plus, puis je leur dirai ce qu'ils veulent. » Parfois, il était battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir debout. Puis il était jeté comme un sac de pommes de terre sur le sol en pierre d'une cellule. On le laissait récupérer quelques heures avant d'être battu à nouveau. Il y avait aussi des périodes de récupération. Il s'en souvenait mal, car il les passait principalement dans le sommeil ou la stupeur. Il se souvenait d'une cellule avec un lit en bois, une sorte d'étagère qui dépassait du mur, un lavabo en tôle et des repas de soupe chaude, et de pain, et parfois du café. Il se souvenait d'un barbier bourru qui était venu lui gratter le menton et lui couper les cheveux, et qui avait l'air très professionnel. Des hommes antipathiques en blouse blanche qui prenaient son pouls, testaient ses réflexes, lui soulevaient les paupières, le palpaient de doigts durs pour trouver les os cassés, et lui enfonçaient des aiguilles dans les bras pour le faire dormir. Les coups devenaient moins fréquents et se transformaient principalement en menaces, une horreur à laquelle il pouvait être renvoyé à tout moment lorsque ses réponses étaient insatisfaisantes. Ses interrogateurs n'étaient plus des voyous en uniforme noir, mais des intellectuels du parti, des petits hommes ronds, aux mouvements rapides et aux lunettes étincelantes, qui le travaillaient pendant des périodes qui duraient, il le pensait, mais ne pouvait en être sûr, 10 ou 12 heures d'affilée. Ses autres interrogateurs ont veillé à ce qu'il soit en constante et légère souffrance, mais ce n'était pas principalement sur la douleur qu'il comptait. Ils l'ont giflé, lui ont tordu les oreilles, tiré les cheveux, l'ont forcé à se tenir sur une jambe, lui interdisant d'uriner, l'aveuglait par une lumière éblouissante jusqu'à ce que l'eau lui coulât des yeux. Mais le but était simplement de l'humilier et détruire son pouvoir d'argumentation et de raisonnement. Leur véritable arme était l'impitoyable interrogatoire qui n'en finissait plus, heure après heure, en le faisant trébucher, en lui tendant des pièges, en déformant tout ce qu'il disait, le convainquant à chaque pas de mensonges et de contradictions, jusqu'à ce qu'il se mît à pleurer, autant de honte que de fatigue nerveuse. Parfois, il pleurait une demi-douzaine de fois en une seule séance. La plupart du temps, il lui criait des injures et le menaçait à chaque hésitation de le livrer à nouveau aux gardes. Mais parfois, il changeait soudainement de ton, l'appelait « camarade », en appelait à lui au nom de Langsok et de Big Brother, et lui demandait tristement si même à cet instant, il ne lui restait aucune loyauté envers le parti qui put le pousser à désirer défaire le mal qu'il avait fait. Lorsque ses nerfs étaient en lambeaux, après des heures d'interrogatoire, même cet appel pouvait le réduire à pleurer. À la fin, les voix lancinantes l'ont brisé plus complètement que les bottes et les poings des gardiens. Il devenait simplement une bouche qui parle, une main qui signe tout ce qu'on lui demandait. Sa seule préoccupation était de découvrir ce qu'il voulait qu'il avoue, puis d'avouer rapidement avant que l'intimidation ne recommence. Il avoua l'assassinat d'éminents membres du parti, la distribution de pamphlets séditieux, des détournements de fonds publics, des ventes de secrets militaires, du sabotage en tout genre. Il avoua qu'il avait été un espion à la solde du gouvernement est-asiatique dès 1968. Il avoua qu'il était un croyant, un admirateur du capitalisme et un pervers sexuel. Il avoua qu'il avait tué sa femme, bien qu'il sache, et ses interrogateurs devaient le savoir aussi, que sa femme était encore en vie. Il avoua que pendant des années, il avait été en contact personnel avec Goldstein et était un membre d'une organisation clandestine qui avait inclus presque tous les êtres humains qu'il avait connus. Il était plus facile de tout avouer et d'impliquer tout le monde. De plus, dans un sens, tout cela était vrai. Il était vrai qu'il était l'ennemi du parti, et aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. Il y avait aussi des souvenirs d'un autre genre. Ils étaient dans son esprit de façon déconnectée, comme des images avec du noir tout autour. Il était dans une cellule qui aurait pu être soit sombre, soit lumineuse, car il ne voyait rien, sauf une paire d'yeux. Près de lui, une sorte d'instrument faisait tic-tac lentement et régulièrement. Les yeux devenaient plus grands et plus lumineux. Soudain, il sortit de son siège, plongea dans les yeux et fut englouti. Il était attaché à une chaise entourée de cadrans sous des lumières éblouissantes. Un homme, en blouse blanche, lisait les cadrans. Il y eut un piétinement de lourdes bottes au dehors. La porte s'ouvrit en claquant. L'officier, au visage de cire, entra, suivi de deux gardes. « Salle 101 !» déclara l'officier. L'homme en blouse blanche ne se retourna pas. Il ne regarda pas Winston non plus. Il ne regardait que les cadrans. Il roulait dans un immense couloir d'un kilomètre de long, plein d'une glorieuse lumière dorée. Il se tordait de rire et se confessait à haute voix en criant à tue-tête. Il confessait tout, même les choses qu'il avait réussi à garder secrètes sous la torture. Il racontait toute l'histoire de sa vie à un public qui la connaissait déjà. Avec lui, il y avait les gardes, les autres interrogateurs, les hommes en blouse blanche, O'Brien, Julia, M. Charrington, tous descendaient dans le couloir, ensemble et en hurlant de rire. Une chose terrifiante que l'avenir gardait en réserve avait en quelque sorte été laissée de côté et ne s'était pas produite. Tout allait bien. Il n'y avait plus de souffrance. Et le plus petit détail de sa vie était mis à nu, compris, pardonné. Il se relevait du lit de planche avec la demi-certitude d'avoir entendu la voix de Brian. Tout au long de son interrogatoire, bien qu'il ne l'ait jamais vu, il avait le sentiment qu'O'Brien était à ses côtés, juste hors de vue. C'était O'Brien qui dirigeait tout. C'est lui qui a mis les gardes sur Winston et qui les a empêchés de le tuer. C'est lui qui a décidé quand Winston devait crier de douleur, quand il devait avoir un répit, quand il devait être nourri, quand il devait dormir, quand les médicaments devaient être injectés dans son bras. C'est lui qui posait les questions et suggérait les réponses. C'était lui le bourreau. Il était le protecteur. Il était l'inquisiteur, il était l'ami. Une fois, Winston ne pouvait se rappeler si c'était dans un sommeil médicamenteux ou dans un sommeil normal ou même dans un moment d'éveil. Une voix lui murmura à l'oreille. « Ne t'inquiète pas, Winston. Tu es sous ma garde. Pendant 7 ans, j'ai veillé sur toi. Maintenant, l'instant critique est venu. Je te sauverai. Je te rendrai parfait. » Il n'était pas sûr que c'était la voix d'O'Brien. Mais c'était la même voix qui lui avait dit « Nous nous rencontrerons dans le lieu où il n'y a pas d'obscurité. » Dans cet autre rêve, il y a 7 ans. Il ne se souvenait d'aucune conclusion à son interrogatoire. Il y eut une période d'obscurité, puis la cellule, ou la pièce dans laquelle il s'était maintenant matérialisé progressivement autour de lui. Il était à plat sur le dos et incapable de bouger. Son corps était maintenu en place à chaque point essentiel. Même l'arrière de sa tête était saisie d'une manière ou d'une autre. O'Brien le regardait d'un air grave et plutôt triste. Son visage vu d'en bas avait l'air grossier et usé, avec des poches sous les yeux et les lignes fatiguées du nez au menton. Il était plus âgé que Winston ne l'avait pensé. Il avait peut-être 48 ou 50 ans. Sous sa main, il y avait un cadran avec un levier sur le dessus et en surface, un cercle de chiffres. « Je vous ai dit, » dit O'Brien, « que si nous nous rencontrions à nouveau, ce serait ici. »« Oui, » a déclaré Winston. Sans aucun avertissement, à part un léger mouvement de la main d'O'Brien, une vague de douleur inondait son corps. C'était une douleur effrayante, car il ne pouvait pas voir ce qui se passait, et il avait le sentiment qu'une blessure mortelle lui était infligée. Il ne savait si la chose se passait réellement ou si l'effet était produit électriquement. Mais son corps était violemment tordu et déformé, ses articulations lentement déchirées et séparées. Bien que la douleur ait fait transpirer son front, le pire de tout était la crainte que sa colonne vertébrale ne se brise. Il serra les dents et respira fort par le nez en essayant de garder le silence aussi longtemps que possible. « Tu as peur, » dit O'Brien en regardant son visage, « que dans un moment quelque chose se brise. Ta pire crainte est qu'il s'agisse de ta colonne vertébrale. Tu as une image mentale de la vertèbre qui se brise et du liquide céphalorachidien qui s'en échappe. C'est à cela que tu penses, n'est-ce pas, Winston ?» Winston ne répondit pas. O'Brien tira le levier sur le cadran. La vague de douleur recula presque aussi vite qu'elle était venue. « Nous étions à 40, » dit O'Brien. « Tu peux voir que les numéros sur ce cadran vont jusqu'à 100. Pourrais-tu, s'il te plaît, te rappeler tout au long de notre conversation que j'ai en mon pouvoir de t'infliger des souffrances à tout moment et à un degré que je choisirai. Si tu me mens, ou si tu tentes de tergiverser de quelque manière que ce soit, voire si tu tombes en dessous de ton niveau habituel d'intelligence, tu crieras de douleur instantanément. Est-ce que tu comprends cela ?
Oui,
déclara Winston. Les manières d'O'Brien devinrent moins sévères. Il réinstalla ses lunettes de manière réfléchie et fit un ou deux pas de long en large. Lorsqu'il parla, sa voix était douce et patiente. Il avait l'air d'un médecin, d'un professeur, voire d'un prêtre, soucieux d'expliquer et persuader plutôt que de punir. « J'ai un problème avec toi, Winston, » dit-il. « Parce que tu me causes bien des ennuis. Tu sais parfaitement ce que tu as. Tu le sais depuis des années, bien que tu aies lutté contre cette certitude. » Tu es mentalement dérangé. Tu souffres d'une mémoire défectueuse. Tu es incapable de te souvenir d'événements réels et tu te persuades que tu te souviens d'événements qui ne se sont jamais produits. Heureusement, c'est curable. Tu ne t'es pas guéri parce que tu n'as jamais voulu le faire. Il y a un petit effort de la volonté que tu n'étais pas prêt à faire. Même maintenant, je suis bien conscient, tu t'accroches à ta maladie en ayant l'impression que c'est une vertu. Nous allons maintenant prendre un exemple. En ce moment, avec quelle puissance l'Océanie est-elle en guerre ? Quand j'ai été arrêté, l'Océanie était en guerre avec l'Estasia. Avec l'Estasia, bien. Et l'Océanie a toujours été en guerre avec l'Estasia, n'est-ce pas ? Winston reprit son souffle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne parla pas. Il ne pouvait éloigner ses yeux loin du cadran. « La vérité, s'il te plaît, Winston. Ta vérité. Dis-moi ce que tu crois te souvenir. Je me rappelle qu'une semaine seulement avant mon arrestation, nous n'étions pas du tout en guerre avec l'Estasia. Nous étions les alliés de l'Estasia. La guerre était contre l'Eurasia. Elle durait depuis 4 ans. Avant cela, O'Brien l'arrêta par un mouvement de main. « Un autre exemple, a-t-il dit. Il y a quelques années, tu as eu une très grave illusion, en effet. Tu as cru que 3 hommes, 3 anciens membres du parti nommés Jones, Aronson et Rutherford, des hommes qui ont été exécutés pour trahison et sabotage après avoir fait des aveux aussi complets que possible, n'étaient pas coupables des crimes dont ils étaient accusés. Tu as cru que tu avais vu des preuves matérielles incontestables prouvant que leurs aveux étaient faux. Il y avait une certaine photographie sur laquelle tu as eu une hallucination. Tu as cru que tu l'avais réellement tenue dans tes mains. C'était une photographie, quelque chose comme ça. » Une longue feuille de papier était apparue entre les doigts d'O'Brien. Pendant peut-être 5 secondes, elle était dans le champ de vision de Winston. C'était une photographie, et il n'était pas question de discuter son identité. C'était LA photographie. C'était une autre copie de la photographie de Jones, Aronson et Rutherford à la réception du parti à New York, qu'il avait découvert par hasard il y a 11 ans et qu'il a rapidement détruit. Pendant un instant seulement, elle était sous ses yeux. Puis elle était à nouveau hors de vue, mais il l'avait vue. Sans aucun doute, il l'avait vue. Il fit un effort désespéré pour décoller la moitié supérieure de son corps libre. Il lui fut impossible de se mouvoir dans aucune direction, même d'un centimètre. Pour l'instant, il avait même oublié le cadran. Tout ce qu'il voulait, c'était tenir la photographie à nouveau dans ses doigts, ou du moins la voir. « Elle existe !» s'est-il écrié. « Non !» dit O'Brien. Il traversa la pièce. Il y avait un trou de mémoire dans le mur opposé. O'Brien souleva la grille invisible, Le frêle bout de papier s'éloignait en tourbillonnant dans un courant d'air. Il disparaissait, dans un éclair de flamme. O'Brien se détourna du mur. « Cendres, » dit-il. « Même pas des cendres identifiables, de la poussière. C'est vrai. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Mais elle a existé. Elle existe. Elle existe dans ma mémoire. Je m'en souviens. Tu t'en souviens. Je ne m'en souviens pas, » dit O'Brien. Le cœur de Winston défaillit. C'était une double pensée. Il avait un sentiment d'impuissance mortelle.